Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raison gardée, proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui avec moi au micro, l'ami Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Alors aujourd'hui, un thème qu'on va pas définir tout de suite, c'est un motif, je vous laisse réfléchir. C'est un motif qui se retrouve dans notre imagination collective quand on parle de révolte populaire, un motif très souvent représenté en peinture mais aussi dans la littérature, on en parlera, qui permet d'évoquer et de représenter de nombreuses journées révolutionnaires, en particulier au XIXe siècle. Et pour une fois, notre thème est introduit par une petite chanson qui va vous aider à trouver très facilement la réponse. Petite chanson.
Six vendeuses de poissons ont composé la chanson des barricades dernières. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Comme ensemble elles buvaient, l'une à l'autre se disaient: parlons un peu de nos affaires. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Une vendeuse de sel dit que monsieur de Bruxelles nous était fort nécessaire. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Pour le peuple supporté, fut en prison arrêté, mais il n'y demeura guère. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Car les bourgeois animés aussitôt se sont armés par une façon guerrière. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Les soldats épouvantés de se voir si bien traités tournaient le cul par terre. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Mais ils ont pour se venger voulu Paris assiéger, mais ils n'y gagneront guère. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là. Crions tous de vive foi, vive Louis notre roi, aussi monseigneur son frère. L'air là, l'air là, l'air, l'air là, l'air là, là.
Et oui, cette chanson s'appelle la chanson des barricades. Elle évoque certaines des premières barricades connues de l'histoire de France. Et c'est le motif sur lequel nous allons dialoguer aujourd'hui avec Charles. Qu'est-ce que c'est qu'une barricade? C'est un retranchement, je vais lire le dictionnaire, bêtement. C'est un retranchement improvisé avec des objets et des matériaux divers. Alors poutres, pieux, pavés, voitures, regardez chez vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour interdire l'accès d'un lieu ou pour se mettre à couvert de l'adversaire dans un combat de rue. Et oui, parce que les premières barricades ont bien sûr eu lieu dans les villes et en particulier à Paris. Les historiens identifient les premières barricades en 1588. Une insurrection, tu as l'air surpris Charles, tu ne pensais pas que c'était aussi...
Non, moi j'ai juste juste à la commune de Paris. En 1500, non, je ne sais pas. C'est quoi, c'est une révolte des gueux ou d'une partie de la...
Une partie du peuple parisien qui a pris fait et cause pour le duc de Guise contre le roi Henri III. C'est le moment des guerres de religion, en fait. C'est-à-dire que les catholiques les plus farouches défenseurs de leur religion avaient pris fait et cause pour les Guises qui sont entrés dans Paris, donc la Ligue, hein, c'est l'époque de ce qu'on appelle la Ligue. Et ils ont protégé la capitale à coup de barricades. Et le mot lui-même vient des barriques, en fait, qui étaient... on voit ça sur une gravure de l'époque. On prenait des tonneaux, des barriques. On les remplissait de pierre et de terre. Sur une gravure, on voit qu'elles étaient aussi attachées ensemble par une corde, plusieurs tours de corde. Et on pouvait ainsi, même si la rue était assez large, en bloquer l'accès. Donc les émeutiers ont spontanément trouvé ce système. D'ailleurs, le duc de Guise a tellement été bien protégé par ces barricades que le peuple de Paris a cru que quelque chose se passait. Il a appelé le roi de Paris et il a fallu qu'Henri III négocie quand même pour que la situation revienne au calme et que sa légitimité soit à nouveau respectée. Et puis un deuxième temps de barricades connu, cette fois-ci c'est au XVIIe siècle. C'est le 26 août 1648 qu'il y a une journée qu'on appelle la journée des barricades. C'est le début de la Fronde. Alors là, c'est un autre roi qui est en question. C'est après la mort de Louis XIII, la France connaît une régence, avec Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, qui n'a toujours pas officiellement le pouvoir. Elle assume donc la régence avec son premier ministre, le cardinal Mazarin. Et elle doit faire face à une très forte contestation et même une guerre civile, puisque ce moment de latence entre deux rois est bien sûr l'occasion pour une partie de la noblesse d'essayer de s'emparer du pouvoir. Et cette période entre 1648 et 1653, c'est ce qu'on appelle la Fronde. Il y a deux types de contestations. Il y a les nobles qui, bien sûr, voudraient s'emparer du pouvoir et évacuer Mazarin. Et puis, il y a une fronde aussi du côté du Parlement. Et en fait, l'élément déclencheur de cette fronde, le 26 août 1648, c'est l'arrestation d'un des parlementaires qui était très, très populaire. Et le peuple se révolte contre cette arrestation. Et de façon assez spontanée, s'empare des rues, sort les tonneaux, les remplit de pierres, de terre et décide ainsi de bloquer les rues de la capitale. Alors, juste avant l'émission, Charles, on se disait, est-ce qu'il y a eu des barricades au moment de la Révolution française ? Eh bien, les historiens constatent une grande rareté, en fait, de la barricade à ce moment-là de l'histoire, parce que la situation n'est pas exactement la même, et qu'il y a plutôt là des marches vers des lieux de pouvoir pour montrer la contestation et faire basculer les choses. Alors que la barricade sert vraiment à essayer de monter une opposition visible et efficace immédiatement contre l'arrivée de troupes, notamment dans la capitale. Alors, si le XIXe siècle est présenté comme souvent justement le siècle des barricades, c'est parce que à chaque fois qu'il y aura des journées révolutionnaires portées par les républicains, eh bien le peuple monte des barricades, en particulier à Paris. En tout cas, c'est souvent ce que l'on imagine, hein, sont les scènes que l'on voit parce qu'elles sont représentées dans les tableaux. Évidemment, si on parle de 1830, par exemple, grand mouvement révolutionnaire fin juillet 1830 contre le roi, eh bien, on pense à un très grand tableau qui est dans les grandes salles du Louvre, qui est sans doute un des tableaux d'un peintre français les plus célèbres, c'est Delacroix, La liberté guidant le peuple. Que voit-on sur ce tableau ? Sinon, alors, une allégorie de la liberté, une femme à la poitrine en partie dénudée, qui monte sur un enchevêtrement de pavés et d'objets divers. Elle monte sur une barricade. Et elle est accompagnée de toute une série de personnages qui représentent plusieurs groupes sociaux du temps. Et puis bien sûr un jeune personnage, un gamin de Paris que Victor Hugo immortalisera sous les traits de Gavroche. D'ailleurs, dans Les Misérables, j'ai retrouvé quelques lignes dans lesquelles Hugo parle de ce moment et de la construction des barricades. Je vous en donne quelques lignes. Rive droite, rive gauche, sur les quais, sur les boulevards, dans le pays latin, dans le quartier des Halles, des hommes haletants, ouvriers, étudiants, sectionnaires, lisaient des proclamations, criaient aux armes, brisaient les réverbères, dételaient les voitures, dépavaient les rues, enfonçaient les portes des maisons, déracinaient les arbres, fouillaient les caves, roulaient des tonneaux, entassaient pavés, moellons, meubles, planches, faisaient des barricades. Donc c'est assez intéressant parce que justement, là, il énumère tout ce que les Parisiens ont trouvé à entasser pour pouvoir construire cette amas qui doit à la fois les protéger et en même temps leur permettre de se défendre et de transformer les rues de Paris en zones presque artisanalement fortifiées. Alors, on rappelle que ce mouvement a été, en 1830, est lié à des lois liberticides contre la presse, et c'est ce qui suscite une insurrection populaire. On peut peut-être préciser aussi que les rues sont encore assez étroites, souvent dans Paris, hein, c'est vraiment le vieux Paris avant les grands travaux, et donc il est peut-être plus facile de mettre en place ces barricades que par la suite. Et d'ailleurs, justement, le pouvoir a très bien compris l'affaire en dessinant de nouvelles rues parisiennes bien plus larges et donc bien plus difficiles à barricader. Ça, c'est sûr. Ce mouvement a vraiment profondément marqué. J'ai retrouvé aussi quelques lignes d'un rédacteur d'un journal qui s'appelait Le Globe, et qui écrit à ce moment-là « Nous ne connaissions pas la population de Paris, nous ne savions pas ce qu'elle pouvait faire, elle ne le savait pas elle-même. La force morale et la puissance matérielle d'une insurrection par barricade nous étaient à tous plus ou moins inconnues. » Donc c'est vraiment un événement un peu fondateur de notre imaginaire, peut-être plus encore que ce que je racontais tout à l'heure de la Ligue et de la Fronde, ces journées de 1830 qui ont marqué par cette insurrection populaire qui s'est exprimée à travers les barricades. On en trouvera d'autres après, parce que les journées révolutionnaires se multiplient. Hein. Par exemple, il y a encore une insurrection importante en juin 32 pour renverser la monarchie de juillet. Et d'ailleurs, il me semble que c'est cette insurrection-là que raconte Hugo dans Les Misérables plutôt que celle de 1830, où il nous montre le petit Gavroche qui court sur les barricades pour s'emparer des armes, des cartouches qui restent dans les gypsières de ceux qui ont été touchés par les balles, et qui court et qui tombe par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau.
C'est la faute à Rousseau.
Voilà. Bravo. Donc un beau personnage. En 1848, autre grande période de révolution républicaine, on retrouve cette situation, et avec à Paris, une sorte de géographie des barricades un peu identique. C'est-à-dire que c'est à peu près dans les mêmes rues, dans les mêmes quartiers, que les barricades se montent. Là encore, finalement, c'est une petite minorité qui lance le mouvement, et qui est une minorité qui est rejointe ensuite par le peuple. Alors là, on reproche au roi d'être trop conservateur, hein, bien sûr. On sait que ce mouvement sera plus, va réussir, hein, puisqu'on va voir enfin une république s'installer. Et puis il y a aussi des événements tragiques déjà qui sont connus, hein, d'exécutions sur les barricades qui vont frapper l'imagination populaire à ce moment-là. Ce qu'on appelle les journées de juin, hein, 23 au 26 juin 1848, sont vraiment des journées marquées par ce que nous appellerait des batailles de rue. Véritablement. Y a un nombre de barricades apparemment assez important. Les historiens parlent de près de 4000 et disent que certaines, d'après les témoignages de l'époque, sont vraiment incroyablement hautes, pouvant parfois rejoindre le quatrième étage des maisons environnantes. Et c'est aussi, on obtient aussi un nombre de victimes très, très important, hein, sans doute 4000 morts sur les barricades et autour à ce moment-là. On a aussi une aquarelle de l'époque qui montre comment le peuple pouvait participer à l'insurrection presque de chez soi, j'allais dire, puisque qui dit barricade en ville dit que la barricade elle va d'un côté à l'autre de la rue, donc il y a des immeubles de part et d'autre, et sur certaines peintures et certaines aquarelles, on voit les personnes qui, de leur fenêtre, balancent une chaise, un pot de chambre, bien sûr, comme on en avait à l'époque. Et donc, bien sûr, les représentations qui se révèlent en faveur du peuple montrent, par exemple, la garde royale complètement ridicule, obligée de reculer, qui non seulement est bloquée par la barricade, mais reçoit des séries de projectiles sur la tête. Et notamment, bien sûr, recevoir le contenu d'un pot de chambre, ce n'est pas très agréable. Mais on imagine, bien sûr, et on voit sur certains des tableaux, la joie du peuple qui peut exprimer ainsi son mécontentement. Et puis, bien sûr, dans notre imaginaire, il y a les barricades de la Commune de Paris. Alors, on peut peut-être rappeler en quelques mots, Charles, ce qu'est ce grand moment d'histoire dont nous parlons aujourd'hui en mars, parce que c'est un événement qui commence au mois de mars.
Oui,
tu vas nous redire tout cela.
Ça commence le 18 mars. Bon, ce mouvement, c'est un nom qui est donné, justement, un mouvement révolutionnaire qui fut mis en place à Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871. À l'époque, c'est Napoléon III qui dirige la France. Il avait déclaré la guerre aux Prussiens de Bismarck en 1870, mais deux mois après, Napoléon III est défait à Sedan. Cette suite-là, il y a une république qui est proclamée, où Thiers et Jules Grévy est président et Thiers son bras droit, enfin, je ne sais plus comment on l'appelle à l'époque. Voilà, donc le peuple, même malgré la défaite de Sedan, la Prusse continue la guerre et assiège Paris et bombarde Paris. Les Parisiens s'organisent pour se défendre et montent ce qu'on appelle les fédérés, à peu près 20 000 personnes qui vont s'armer pour défendre la Paris. Et aussi, les fédérés avaient pris des canons qui avaient été payés par le peuple sur une souscription, des canons qui étaient installés donc, sur les hauteurs de Paris, notamment à Montmartre, à l'emplacement du Sacré-Cœur, à Belleville et ailleurs. Voilà. Donc, Thiers veut récupérer ses canons. Et donc, le 18 mars, il monte sur Montmartre, mais là, notamment des femmes qui, déjà à l'époque, se révoltent et disent aux soldats « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» et tout ça. Et il y avait Louise Michel qui avait été aussi appelée à la rescousse à ce moment-là.
On avait fait une émission sur Louise Michel, mais on refera une émission sur les femmes et la Commune prochainement. Parce que c'est une belle personne, un grand sujet.
Oui. On les oublie trop souvent. Parce que la Commune, c'est vrai qu'elle leur a donné la parole et elles avaient constitué des lieux de discussion et d'échange. Mais ça, c'était... Les hommes ont repris vite la main quand même, un peu après.
Ah oui.
à mon goût, voilà. Mais donc, à la suite de ce mouvement, donc, Thiers... les soldats mettent crosse en l'air, c'est la première. Donc, les soldats mettent crosse en l'air et évacuent. la suite de ça, Thiers se réfugie à Versailles, enfin le gouvernement se réfugie à Versailles et la Commune commence à se mettre en place avec des élections à l'hôtel de ville et des tas de choses comme ça, avec des avancées importantes, hein, je ne sais pas si on les rappelle. Hein,
oui, on peut.
Il y avait notamment la réquisition des logements laissés vacants par les propriétaires qui sont partis, la pension versée aux veuves des fédérés mariés ou non. Mais aussi des choses comme la plus importante et qui nous intéresse, nous, à les penser, c'est la séparation des églises et de l'État et la suppression des cultes. Donc, c'était déjà une avancée importante pour la mise en place de la laïcité. les combats. Thiers, lui, a renforcé son armée. Et lui, il avait renforcé son armée à peu près 130 000 hommes. Donc il veut reprendre Paris et tout ça. Mais aussi, les fédérés se sentant poussés des ailes suite à l'échec et la mise à crosse en l'air des soldats vont attaquer les Versaillais. Et ça a été un massacre, le début d'un massacre. Les Versaillais, bien sûr, ont réussi à contrer l'offensive des fédérés. Et là, c'était le début, bien sûr, de la bataille de Paris. Donc il y a eu des batailles de rue, mais aussi on a monté des barricades, bien sûr, pour se défendre un peu partout. À la fin de la Commune de Paris, on dit qu'à peu près 150 barricades qui ont été montées sur Paris. Notamment, il y en a eu, bien sûr, sur Montmartre, il y en a eu dans le 13e, les quartiers de Belleville et tout ça. Et malheureusement, la Commune, elle a ployé Les soldats n'ont plus mis une crosse en l'air, ils ont même plutôt accentué les massacres. Ça s'est terminé donc même à la baïonnette, dans le cimetière du Père-Lachaise. Il y a eu le mur des fédérés, où il y a 200 personnes qui ont été fusillées. C'est une commémoration qui est faite tous les ans lors de la Semaine sanglante. Donc la Semaine sanglante, elle est commencée au mois de mai, et terminée au 28 mai. Donc c'est... La période la plus tragique de la Commune de Paris. Et les dernières barricades sont éteintes là en bas du quartier du Père-Lachaise. Quoi. Le bilan est très lourd de cette commune là, au niveau des morts. On dit à peu près 20 000, entre 20 et 30 000 morts à la fin de cette semaine sanglante. Mais après, Thiers et le gouvernement Thiers, et notamment l'armée qui avait pris une déculottée à Sedan, s'est vengé d'une façon monstrueuse sur les fédérés. Et il y a eu, pendant plusieurs semaines, des rafles, donc avec des tribunaux, des tribunaux militaires qui envoyaient plutôt les gens à la mort.
Oui, les procès, des parodies de procès, les plus souvent.
Des parodies de procès et tout ça. Donc, on estime qu'à la fin de toutes ces répressions, Alors, je parle aussi, il y a eu des déportations en Nouvelle-Calédonie, notamment, des emprisonnés. Il y a eu une sorte de camp de concentration à Satory, où les conditions de détention étaient épouvantables, où il y a eu beaucoup de morts aussi. À la fin de cette triste épisode, juillet, août 1871, il y a manqué 100 000 ouvriers à Paris. Donc, on est difficile de faire un recensement parce que, aussi, dès le début des massacres, quand il y a eu la contre-offensive de Thiers suite à l'offensive des fédérés et malheureuse, il y a eu des fosses communes, il y a eu des crémations, c'était horrible. Il y avait des endroits où on dit qu'il y avait des rigoles de sang dans les rues de Paris. Il y a des amoncellements de cadavres jusqu'à 5-6 mètres de hauteur. Donc c'est très difficile de dire un compte exact, mais on peut estimer qu'il y avait quand même pratiquement 100 000 disparus. Alors dans les disparus, bien sûr, il y a ceux qui ont combattu, ceux qui étaient pour rien, ou qui passaient par là, qui ont été
des récits.
Des choses qui ont été massacrées, souvent par les Versaillais. Hein. On dit que les Versaillais ont perdu... on aurait perdu à la fin de la semaine sanglante entre 20 et 30 000 combattants, les Versaillais 880 000, il y aurait eu 484 exécutés par la commune des Versaillais. Mais bon, c'est quand même les fédérés qui ont payé le prix de la commune. Quoi.
Et il y avait même une commission des barricades, j'ai vu. Hein. Mais la barricade était déjà un peu dans leur imaginaire, mais n'a peut-être pas été très très efficace à ce moment-là. Je vais faire quelque chose qui est très radiophonique, chers auditeurs. Regardez une photographie. Oh, c'est une belle photographie que tu as là. Les canons parisiens à Montmartre. Ah ouais, c'est pas une. J'ai vu une photographie. Vous pouvez la retrouver facilement sur internet, un boulevard qui a changé de nom depuis, qui s'appelait le boulevard Puebla, je crois, à l'époque. Et on voit une grande barricade au moment de la commune. Et ce qui est assez intéressant sur cette photographie, alors pour la décrire rapidement, c'est qu'on voit donc un amas de pavés et aussi je sais pas si ça porte un nom, des éléments métalliques qu'on met au pied des arbres en ville, qui avaient été décelés et qui avaient été des grilles, voilà, des choses comme ça. Et on voit à la fois des fédérés, c'est-à-dire des hommes en armes avec un uniforme. On voit aussi des civils qui sont là sur la barricade et là ils posent fièrement. On est vraiment au début quand il y a encore un enthousiasme et qu'on pense la victoire possible. Bien sûr, on ne s'engage pas dans ce genre de combat en partant perdant, ça c'est une évidence. Et on voit les hommes, deux, trois hommes qui sont devant la barricade, fusil à la main. Un homme qui est debout sur la barricade, on retrouve vraiment la posture de l'homme déterminé et qui se sent déjà victorieux, qui lève son fusil. Et puis sur les côtés, on voit aussi qu'il y a des civils. Alors ils sont peut-être venus là pour la photographie, mais s'ils ont eu envie de se faire photographier, c'est bien la preuve qu'ils soutenaient le mouvement et sans doute y ont-ils participé. On sait aussi que les femmes se sont battues pour avoir la possibilité d'être sur les barricades parce que les hommes n'étaient pas toujours convaincus, certains, que c'était là leur place. Hein, faire la cantinière, faire l'infirmière, très bien, mais prendre les armes et monter sur la barricade, c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de voir tout de suite.
Ouais, faut savoir, pour en venir au peuple de Paris, le peuple de Paris était... constitué de quartiers où il y avait beaucoup d'artisans et d'ouvriers. Et c'est aussi le mouvement-là qui est important dans les prochaines luttes qui vont arriver, qui suivront. Hein. Mais pour revenir aux femmes, ils avaient quand même aboli la prostitution. La commune de Paris.
Oui, et c'est bien. Je ne sais pas comment interpréter ton sourire, Charles. C'est bien. Je ne sais pas.
Mais c'est vrai que... il y a eu des figures de la commune de Paris, c'est minoritaire par rapport à ce qu'elles ont fait à ce moment-là.
Oui. Oui, bien sûr. Donc on fera une émission sur les femmes dans Paris. Je vous propose d'aller gentiment vers la fin de cette émission avec une chanson. Vous allez tout de suite l'entendre, une chanson qui est quand même bien plus contemporaine que celle qui avait ouvert notre thème du jour.
Un jour j'irai offrir mon corps aux barricades, armé d'un long discours, fait des plus simples mots. Un jour dans la mêlée qui suit la fusillade, j'irai prêcher la paix, sauver des lacrymos. Que le feu et la douleur au silence soient rendus bois.
jour j'irai défier le plomb, les baïonnettes, sans attendre que le feu dévore mes plus beaux jours, faisant face aux canons qui hurlent et qui tempêtent leurs tirades crasseuses et leurs haineux discours. Sans le feu et sans le sang, espérer un nouveau monde où les bourreaux se condamnent. Au front, je tomberai sous les balles, soufflant mes dernières larmes auprès d'un compagnon que mes vieux chants de lutte le guide comme l'étoile qui me montrait la route où fleurit la sédition.
Dans le vent, dans le chaos, prends ma main, porte mon cri, dresse ton poing, suis mon drapeau sous le feu des lacrymos.
Barricade, c'est notre motif du jour. Alors, on a développé un peu sur la Commune de Paris parce que nous sommes en mars et que c'est vraiment le moment dans l'année pour commémorer ce grand événement. Et sur notre motif des barricades, pour conclure, on peut continuer et terminer en évoquant, on a tous aussi en tête les barricades lors de la libération de Paris. Il y a vraiment eu un appel à la population à empêcher la circulation de l'ennemi par tous les moyens. Et notamment dans l'appel, on disait abattez les arbres, creusez des fossés, dressez des barricades. Et c'est un peuple vainqueur qui recevra les alliés. Donc il y a vraiment eu cette construction de barricades pour signifier aussi la force du peuple devant l'ennemi. Bien sûr, on pourrait parler aussi des barricades de mai 68. Mais finalement, dans Paris, elles ont été bien plus localisées que ce qu'on a pu connaître au cours du 19e siècle. Et puis, il y a eu quand même ce qu'on appelait la nuit des barricades, le 10-11 juin 68, et on trouve dans la presse des images, des pavés descellés qui sont empilés devant des voitures calcinées, des arbres abattus, donc on retrouve toujours cette amas, et puis des jeunes surtout qui s'emparent de ces pavés comme projectiles contre les forces de l'ordre. On ne peut pas terminer le sujet des barricades sans avoir une pensée pour l'Ukraine. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de cette guerre, qu'on aimerait voir se terminer bientôt, eh bien nous avons vu les Ukrainiens à Kiev notamment, place Maïdan, remplir des sacs de sable pour se protéger. Voilà, c'est une note un peu sombre pour terminer cette émission, mais il me semble important d'exprimer à nouveau notre solidarité pour les peuples qui souffrent, et notamment le peuple ukrainien. Voilà, sur cette note, nous vous disons au revoir. Nous rappelons que vous pouvez podcaster cette émission sur le très bien géré site de RCN. On remercie Thomas aujourd'hui à la technique, on avait le patron. Waouh. Et merci Charles.
C'était un plaisir d'être avec vous.
Merci Sylvie, merci tout le monde.
À très bientôt.
Merci RCN.
Au revoir.